Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'avoir cette occasion d'être encore avec vous ici à Toulouse. Ça fait trop longtemps depuis que j'ai eu cette occasion de passer un culte, d'être ici au culte avec vous. Il y a une phrase que l'on utilise de temps en temps dans la vie des affaires ainsi que dans la vie d'administration. Mais cette parole est aussi valable dans la vie de la foi. La phrase dit simplement, la chose principale, c'est de s'assurer que la première chose reste toujours la première chose. Vous avez compris? La chose principale, c'est de s'assurer que la première chose reste toujours la première chose. Maintenant, je vous invite à écouter une autre parole. Celle-ci vient de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Je vais lire dans la version Semer 2000, Matthieu 11, du verset 25 à la fin du chapitre. Ce texte de Matthieu nous invite à comprendre la première chose que l'on doit toujours garder comme la première chose. Donc, écoutez la parole de Dieu. Vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Seigneur, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Avant de commencer ce message, je vous invite, pas pendant longtemps, mais pendant peut-être une ou deux minutes, de vous tourner vers celle ou celui qui est à côté de vous et discuter deux questions. Première question, quand j'ai lu ce texte, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce texte? Et deuxième question, quelles questions aimeriez-vous poser pour mieux comprendre ce texte? Donc avec la personne qui est à côté de vous, s'il n'y a pas quelqu'un à côté, peut-être devant ou derrière, prenez deux minutes pour discuter ces deux questions. OK, c'est la fin. C'est pas longtemps. Quelqu'un a un jour remarqué que le mot favori de Dieu, c'est « venez ». Il est vrai que nous entendons plusieurs mots très importants venant de la bouche de Jésus. Par exemple, Jésus a dit « allez ». Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a aussi dit « donner », ce que nous avons fait tout à l'heure. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous savons aussi qu'il nous invite à servir. Il a dit « quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ». En effet, Jésus a dit « allez ». Guérissez, prêchez, donnez. Il avait plusieurs impératifs très importants, mais je suis d'accord que son mot préféré, c'était « venez ». Venez à moi. À moi. Ce que vous avez remarqué, il n'a pas dit « venez à l'église ». Il n'a pas dit « venez à la religion ». Il n'a pas dit « venez à la spiritualité ». Il n'a même pas dit « venez au ministère ». Non, Jésus a dit « venez à moi ». Il nous appelle à lui-même. C'était Richard Alverson qui a remarqué un jour que le christianisme commence en terre palestinienne comme une relation avec une personne. Mais il alla ensuite en terre grecque et il devint une philosophie. Puis il alla en terre romaine et il devint une institution. Il alla en terre européenne, il devint une culture. Et il alla en terre américaine, il devint une entreprise. Oh là là! Je veux ce matin que vous sachiez que le christianisme est essentiellement une personne. Venez à moi, Jésus a dit. La première chose, c'est d'assurer que la première chose reste toujours la première chose, c'est une personne. J'apprécie ce que le fondateur de l'Église, l'AECM, a écrit dans un bouquin qui s'appelle « Lui-même ». Il a dit « C'est de Jésus et de Jésus seul que je voudrais vous parler. On exprime souvent devant moi le désir de posséder la guérison divine, par exemple, et le regret de ne pas y parvenir. Parfois, au contraire, on s'écrie « Ça y est, je l'ai !» Et quand je demande « Qu'avez-vous donc ?» On me répond, j'ai saisi telle bénédiction, j'ai compris la doctrine de ceci ou de cela, même j'ai reçu la guérison ou j'ai trouvé le Saint-Esprit, mais j'en rends grâce à Dieu. Il nous a été enseigné que ce n'est ni une bénédiction, ni la sanctification qu'il nous faut, ce n'est ni cela, ni ceci, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est le Christ, c'est lui-même. Oui, la première chose, c'est une personne. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous qui êtes fatigués par les difficultés de la vie. Vous tous qui êtes fatigués par la souffrance dans ce monde. Vous tous qui êtes fatigués par l'injustice, la douleur, la tristesse de ce monde. Vous tous qui êtes chargés et fatigués par les soucis de ce monde. Connaissez-vous quelqu'un qui est chargé et fatigué? Êtes-vous venu ce matin chargé et fatigué? Êtes-vous chargé par les suroccupations, les dettes, les problèmes de l'école, ou de la famille, ou du boulot, même souvent les problèmes dans l'église? Parfois, nous entendons cette parole de Jésus comme telle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai d'autres choses à faire. Mais non, ce n'est pas ça ce que Jésus a dit. En français et en anglais, les verbes fonctionnent dans deux voies, comme vous savez bien, active et passive. Mais en grec, les verbes ont trois voies, active, passive et moyenne. Comme vous savez, la voie active est celle où le sujet fait l'action. Donc, je lave quelque chose, la mère lave son enfant. La voie passive est celle où le sujet subit l'action. L'enfant est lavé par sa mère. Mais la voie moyenne en grec est celle où le sujet agit dans sa propre action. En grec, la voie moyenne correspond au verbe français pronominal comme « je me lave ». Ici, le verbe « charger » est dans la voie moyenne, c'est-à-dire « je me surcharge ». Venez à moi, Jésus a dit. Vous tous qui êtes chargés par votre propre action, par vos mauvais choix, par vos propres priorités, par vos propres décisions, vous êtes surchargés, vous êtes chargés, vous êtes fatigués. Vous connaissez quelqu'un dans cette situation? Vous êtes peut-être vous-même dans cette situation? Quelqu'un qui est trop occupé, quelqu'un qui est surchargé parce qu'il a des mauvaises priorités? Jésus est en train de dire que nous sommes souvent chargés et fatigués par nos propres décision par nos mauvaises priorités. Venez à moi. Nous entendons parfois dans la vie évangélique et je vous chargerai de plus, je vais vous donner d'autres activités dans l'Église. Mais non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, est-ce vrai? Plus littéralement, je vous ferai reposer en moi. Repos? Quel repos? Les Israélites furent esclaves en Égypte et ainsi ils travaillèrent 7 jours sur 7. C'est la mentalité d'un esclave. Mais après leur libération, Dieu leur donna le jour du sabbat, un jour de repos. Ce repos, c'était la mentalité d'un peuple libre. Quand mes enfants étaient petits, moi et ma femme, nous étions missionnaires en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Et mes enfants sont allés à une école missionnaire en Côte d'Ivoire pour les enfants missionnaires. Cette école avait plusieurs règles concernant le dimanche. Une règle, c'était ne courez pas le dimanche. Mais malheureusement, la loi ne donne pas de repos. Dire à un enfant de 7 ans ne courez pas le dimanche, cela ne donne pas le repos, ni pour l'enfant, ni pour les adultes. Une autre règle, c'était il fallait une sieste le dimanche après-midi. Personnellement, moi j'aime beaucoup cette règle-là. Je pense qu'on doit avoir ça dans tous les pays du monde. Mais un repos forcé ne donne pas la vie aux enfants. Ça donne la vie aux parents peut-être, mais pas aux enfants. La loi ne peut nous donner du repos. Une règle ne peut nous donner du repos. Le jour de sabbat n'était pas d'abord une loi, mais Dieu donna ce jour avant même de donner les 10 commandements. Dans Genèse chapitre 1 et 2, nous lisons que Dieu créa le ciel et la terre. Ainsi, il y eut un soir Et un matin, ce fut le premier jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour de la création de Dieu. Et ensuite, nous lisons, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, et Dieu acheva au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Pourquoi Dieu se reposa-t-il? Était-il fatigué? Transpirait-il de son œuvre de création? Non. Quand nous lisons que Dieu se reposa, cela veut dire que Dieu entra dans le but de sa création, la communion fraternelle avec Adam et Ève, ce qu'il avait créé. L'idée de repos est semblable au mot hébreu « shalom ». On traduit ce mot en français « paix ». Mais celui-ci inclut plus que la paix. « Shalom » veut dire la plénitude, le bien-être. La paix intérieure et extérieure, shalom veut dire le repos du cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous ferai reposer en moi, Jésus dit. Je vais vous mener dans la plénitude pour laquelle vous avez été créés. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est là où nous avons besoin de repos, dans nos âmes. Nos corps, nos cerveaux sont fatigués parce que notre âme est fatiguée, parce que notre âme n'est pas dans la paix. Notre âme a besoin de repos. S'il te plaît, Jésus, j'en ai vraiment besoin. Mais comment? Comment nous feras-tu ainsi reposer? Vous êtes prêts pour la réponse? Prenez mon joug sur vous. Oh là là, Jésus, c'est pas possible. Je viens chargé et fatigué et tu m'offres un joug? Pourquoi fais-tu cela? Est-ce une blague? Est-ce une publicité? On ne croit plus à la fiabilité des publicités. On sait que les entreprises feront quoi que ce soit pour gagner l'argent. Je me souviens d'un appel téléphonique que j'ai reçu un jour pendant notre première année de mariage. J'étais un peu naïf. Quelqu'un m'a téléphoné pour offrir à ma nouvelle femme et moi un cadeau gratuit. S'il pouvait venir chez nous donner sa présentation. Donc moi, j'aime toujours quelque chose de gratuit, malheureusement, donc j'ai accepté. L'homme est venu le soir, il a gaspillé toute notre soirée en essayant de nous vendre une assurance de vie. Après avoir pris toute la soirée, il est enfin parti en me donnant un tout petit portefeuille qui était vraiment minable. Il était rabé. Est-ce que Jésus fait cela? Est-il semblable à nos politiciens viennent d'une campagne politique qui lance toujours les promesses? On entend partout des promesses. Jésus fait-il la même chose? Non. Jésus ne fait pas cela. Cependant, on se demande comment peut-on trouver de vrais repos en prenant son joug? Un joug, vous savez, c'est un symbole du travail, du dur travail, pas de repos. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de Solomon et ensuite son fils, Roboam, et le peuple demandait à son fils, « Ton père avait alourdi notre joug. Toi, maintenant, allège le dur servage, le joug pesant que ton père nous a imposé et nous te servirons. » Jésus connaissait aussi l'Ancien Testament. Il savait que le joug était vraiment un symbole du travail, de service. Comment est-il possible de trouver du repos en prenant un joug? Nous sommes souvent fatigués et accablés, et Jésus nous invite à prendre son joug. Nous sommes confondus, nous sommes déjà accablés. Comment son joug pouvait-il nous décharger? Nous préférons que Jésus nous invite à un pique-nique sur le bord de la mer de Galilée, ou qu'il nous invite à nous baigner dans la mer morte. Mais prenez mon joug. On place un joug sur les animaux pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et font beaucoup de travail. Oui, nous sommes troublés par cette invitation de Jésus. Prenez mon joug sur vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus nous dit que nous sommes chargés et fatigués parce que nous apportons le mauvais joug. Si nous voudrions connaître son repos, nous devons échanger notre joug pour son joug. Vous voyez, la question n'est jamais « porterai-je un joug ?» Non, la question est toujours « quel joug porterai-je ?» Chaque personne porte un joug. La question n'est jamais « aurai-je un maître ?» Non, la question est toujours « qui sera mon maître ?» La question n'est pas « suivrai-je quelqu'un ?» La question est plutôt « qui suivrai-je ?» La question n'est pas « porterai-je un joug ?» Non, la question est plutôt « quel joug porterai-je ?» Jésus nous explique que nous sommes chargés et fatigués parce que nous portons le mauvais joug. Changez le joug. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Doux? Léger? De quel joug parles-tu, Jésus? Je n'ai jamais connu un tel joug. Je n'ai jamais porté un tel fardeau. Quel est ton joug? Jésus, quel est ce fardeau dont tu parles? Jésus dit que c'est son joug, comme on dit, son chemise, quelque chose que lui, il porte déjà et tout le monde voit qu'il porte. Quel est ce joug? Et ici, nous devons vraiment remarquer le contexte de ce passage. Pour interpréter un texte de l'Écriture, le contexte est toujours très important. Mais j'avoue que je n'ai jamais auparavant vraiment remarqué l'importance du contexte, même dans cette invitation de Jésus. J'ai toujours commencé au verset 28, « Venez à moi » avec cette merveilleuse invitation. Mais Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et c'est ensuite, il lance l'invitation, venez à moi. C'est ce joug qui est doux, c'est lui qui renouvelle, c'est lui qui rafraîchit, c'est lui que Jésus lui-même a toujours porté. Quel est ce joug? C'est sa relation avec son Père. Ça, c'est l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça prend naissance dans sa prière. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. L'appel de Jésus, venez, prenez mon joug. Cet appel de Jésus prend naissance dans son temps de louange et d'adoration. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, l'invitation de Jésus se manifeste au milieu de son temps de louange, de sa relation intime avec le Père. Cette invitation prend naissance même au milieu de son affirmation du Père. Ceci est mon Fils bien-aimé. Jésus prie, il loue le Père, il vit une relation intime avec lui, et au milieu de cette relation précieuse, il se tourne vers nous et il nous invite dans cette même relation, cette même intimité. Venez, venez à moi, prenez mon joug, celui que je porte moi-même, ce joug est ma relation intime avec le Père, et je vous invite dans cette même relation. Ce texte commence avec une relation intime. Jésus est en communion avec son Père. Cette intimité est le secret de son ministère et le secret de sa vie entière. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus a confiance en son Père, malgré les tribulations, les difficultés par lesquelles il passe. Donc, le contexte, le chapitre nous montre que les villes autour de lui, les villes en Israël, de Chorazin, de Bethsaïda, n'acceptaient pas son message. Quelques-uns l'accusaient d'être un fils du diable, quelques autres disaient qu'il était fou. Mais malgré tout cela, il prie, il se confie au Père, il loue son Père. Et au milieu de la force de cette louange, de la force de cette intimité, de la force de cette adoration, il invite ses disciples dans cette même relation. Venez à moi. L'implication de cette invitation, venez à cette louange. Venez à cette relation, venez à cette intimité, venez à cette confiance, prenez ce joug sur vous. Le joug de Jésus, c'est simplement cette relation intime avec son Père, avec le Créateur. Et son fardeau? Son fardeau est qu'il ne vit que pour plaire à son Père. Il vit toute son existence pour l'auditoire d'une seule. Son Père. Il ne cherche jamais l'approbation des scribes et des pharisiens, ni les docteurs de la loi. Il ne demande pas la bénédiction des sacrificateurs, ni des sadducéens. Il n'a aucun besoin de plaire à Hérode, ni à Pilote. Si les puissances politiques l'aimaient, cela n'est pas du tout son fardeau. Son fardeau, c'est plaire à son Père. Point. Et notre fardeau, c'est souvent plaire à tous les autres. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Doux? Léger, peut-être pour toi, Jésus, mais pour moi, j'en suis pas certain. Léger pour moi? Oui, parce que je suis aussi invité dans cette même relation, cette même intimité. Parce que je suis créé pour cette même relation intime. Mon joug est doux, Jésus dit. Ce mot doux en grec veut dire celui qui nous convient. Cela nous convient parce que nous sommes créés pour cette relation intime avec le Père. La première chose, c'est de s'assurer que la première chose reste toujours la première chose. Et la première chose est cette relation avec le Père qui remplit le vide au centre de notre cœur. Et mon fardeau est léger. Léger? Plaire à Dieu est léger? Peut-être pour toi, Jésus, mais pas pour moi. Léger pour moi? Oui, il est plus facile à plaire à Dieu qu'à plaire à nos parents terrestres. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît au Père? Le Père est content quand nous venions au Fils. Le Père est content quand nous acceptions cette invitation. Le Père veut que nous nous confions au Fils. Le Père est satisfait lorsque nous acceptions cette invitation, lorsque nous venions au Fils pour décharger notre âme accablée par le péché et les soucis de ce monde pour trouver son repos. Prenez mon joug. Vous devenez fatigué et accablé parce que vous portez les mauvais jougs. Vous êtes surchargé parce que vous portez les gros fardeaux. Changez le joug. Déposez ce fardeau de plaire aux autres et vivez pour un auditoire danseur, votre Créateur. Vous êtes surchargé parce que vous cherchez l'approbation de votre patron, de vos amis, de votre conjoint, de vos voisins. Vous essayez de plaire à tout le monde, sauf celui qui vous a créé. Vous essayez d'obéir à tant de maîtres. Ce n'est pas du tout étonnant que nous sommes fatigués et accablés. Mettez-vous à mon écoute, dit Jésus. Regardez-moi. Voyez ma vie intime avec le Père. Entrez dans ma vie de louange. Entrez dans ma vie de confiance. Entrez dans ma vie d'intimité avec le Créateur de l'univers, car je suis doux et humble de cœur. Je ne vais pas vous condamner même pour vos mauvais choix, vos mauvaises priorités, vos fardeaux accablants. Venez. Venez à moi. Laissez tomber vos fardeaux accablants parce que vous essayez de plaire aux autres et non au Père. Entrez dans ma vie d'intimité avec le Père et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mes frères et mes sœurs, Jésus n'a jamais dit « Venez à la religion ». Il n'a pas dit « Venez au christianisme ». Il a dit simplement « Venez à moi. » Prions avec moi. Oui, Seigneur, je ne sais pas pour mes frères et sœurs ici, dans ce bâtiment ce matin, mais je dois avouer que je suis souvent accablé et fatigué parce que je prends le mauvais joug. J'ai le fardeau parfois d'essayer de plaire aux autres. Et Seigneur, il est vrai que ça m'accable. Ça m'épuise. Et Seigneur, j'ai besoin ce matin de répondre à ton invitation. Seigneur, que tu nous renouvelles tous dans ta présence, avec ton amour, ta grâce et ton repos. Et aide-nous, Seigneur, ce matin à écouter une fois de plus cette invitation merveilleuse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus.